Que faisons-nous pour préparer les enfants à mieux se débrouiller, à mieux faire face aux tâches qui seront les leurs dans la société qui, dans 4 ou 5 ans, va les accueillir? Je vous ai dit que les méthodes traditionnelles créent une sorte de divorce, un hiatus entre la culture et le milieu. Nous, nous réintégrons l'enfant dans son milieu. Et ça, nous le faisons dès l'école maternelle. C'est une condition, j'allais dire sine qua non, de l'équilibre dont nous avons tous besoin et dont on aura de plus en plus besoin dans les sociétés à venir. Cet équilibre qui fait que l'individu, que ce soit un conducteur d'auto, un conducteur d'avion, un conducteur d'homme, il y a des gens qui ils savent où ils vont. Ils savent où ils vont parce que peut-être ils ont reçu une éducation comme là, ou bien qu'ils ont pu surmonter l'éducation. Nous, nous devons préparer ces hommes qui, lorsqu'ils entreront demain dans la bagarre de la vie, ils sauront faire leur place, non pas seulement en jouant du coude, mais en suivant, pour ainsi dire, leurs idées et leurs possibilités. Moi, je pense que l'individu s'adapte toujours trop au régime. L'école s'adapte toujours trop aux nécessités administratives ou autres. Nous n'avons pas à faciliter cette adaptation. Il y a au contraire quelque chose que nous devons faire, c'est, garder pour les individus et pour les éducateurs ce sentiment d'aller un peu à contre-courant de temps en temps. Il faudrait bien que nous habituions nos enfants à remplir leurs fonctions de citoyens plus tard. Et remplir les fonctions de citoyens, cela veut dire avoir le droit, dans le courage plutôt, dans une association, dans une assemblée, de lever le doigt pour protester contre ce qui se fait, pour donner son point de vue, même si on sait que ce point de vue n'est pas celui des autres, si on sait qu'il contrarie les habitudes courantes. Il faut avoir ce courage qu'ont tous les instituteurs de notre mouvement de présenter des solutions nouvelles. Il faut que nous préparions nos jeunes, nos adolescents et nos enfants à dire en face du problème social et politique qui sera présenté demain, ce qu'ils ont à dire, comment ils doivent concevoir la société, comment cette société peut se réaliser pour qu'elle réponde également à leurs besoins. Ça, c'est une fonction, cette fonction active de l'éducation. Au sein des familles également, je sais bien que la famille n'aime pas trop en général que l'enfant se singularise. Il préférerait que l'enfant reste dans le giron maternel et il fasse comme on l'a toujours fait, et qu'on ne fasse pas parler, qu'on ne dise pas cela. Pourtant, les progrès viennent tous des gens qui n'ont pas pensé exactement comme les autres, qui ont fait ce que les autres ne faisaient pas, qui à l'origine a paru comme des folies et qui plus tard ont été justement reconnus comme étant au contraire très raisonnables. Nous habituons nos enfants à savoir se critiquer et à savoir critiquer les autres. En ce sens qu'on pourra dire l'école qui a formé ses enfants a bien rempli son rôle. Sinon, nous n'aurons formé que des bénis oui-oui, nous n'aurons pas préparé les générations de demain. Je terminerai en disant que nous avons encore innové dans un autre sens, qui est celui de la notation des enfants, c'est-à-dire du classement des enfants. Vous savez qu'actuellement, les équipes d'orienteurs sont obligées naturellement d'examiner les notes des enfants, ou bien ils font passer des tests, divers tests qui sont plus ou moins parfaits. Mais l'école ne leur apporte pas l'aide qu'elle devrait leur apporter. Alors nous avons imaginé un autre système, qui est les brevets. Et alors, tous les samedis, nous exposons ce que les enfants ont fait. Alors, il faut qu'ils réalisent quelque chose en histoire, faites des maquettes, présentez quelque chose, en dessin, apportez des dessins, en science, en calcul, faites des mécaniques, débrouillez-vous, apportez quelque chose de tangible que nous puissions mesurer. Et puis, tous les mois, la dernière semaine du mois, nous l'employons à des brevets. Cette semaine-là, les enfants préparent leurs brevets et ils réalisent quelque chose dans tous les domaines. Et à la fin de l'année, nous groupons tous ces brevets et nous donnons des brevets pour toute l'année. Des brevets qui étaient basés également sur des principes, sur des normes que nous tâchons de préciser. Alors, nous avons établi quelques 30 brevets. Alors, il y a le brevet de conteur, le brevet de bon lecteur, le brevet de mécanicien, le brevet d'artiste, le brevet de graveur, le brevet de nageur, le brevet... Il y a un bon nombre de brevets. Pourquoi ? Pour que, justement, chaque enfant puisse avoir ses chances. Et, en fin d'année, nous distribuons ces brevets. Nous, notre expérience a été très concluante dans ce domaine. Les bons élèves avaient en fin d'année jusqu'à 16, 18 brevets. ceux qui étaient moins forts en avaient 5, 6 ou 7. J'étais très content de finir l'année avec 6 ou 7 brevets. Mais ce qu'il y a de caractéristique, c'est qu'aucune liste de ces brevets ne concordait. Chacun avait sa spécialité de brevet. Et en regardant ces brevets, on voyait ce que les enfants étaient capables de faire, là où ils avaient le mieux réussi. Alors si cette pratique des brevets pouvait être généralisée, non seulement au premier degré, mais même au second degré, bien préparé, l'orienteur ou le chef d'entreprise qui voudrait accueillir un enfant dirait « Montre-moi un peu tes brevets scolaires ». Et sur les brevets scolaires, il verrait justement ce qu'il faisait bien à l'école, là où il avait triomphé, là où il avait baissé, là, de façon à, autant que possible, faire marcher dans les voies où il est efficient pour faire réussir l'enfant. Ne pas l'orienter, au contraire, sur des pistes où il échouera. Je crois que c'est une technique d'avenir et qui facilitera beaucoup cette orientation professionnelle dont, bien sûr, nous sommes obligés de reconnaître l'importance, mais j'ai voulu, moi, au cours de cette causerie un peu à bâton rompu parce que c'est certes délicat et puis nous ne sommes pas des orienteurs, je le répète, j'ai voulu simplement marquer que cette orientation doit avoir des bases, des fondements dans justement la préparation que nous donnons, nous, à nos enfants, dès le premier degré, que vous, parents, vous devez penser également que cette orientation ne se fera pas à 14 ans ou à 15 ans, mais que c'est maintenant que vous la préparez, que vous ne devez pas décider d'avance, bien longtemps à l'avance, trop tôt, ce que fera votre enfant. Dans la société actuelle, il ne faut pas condamner trop tôt les enfants à faire toujours le même travail que peut-être ils n'aimeront pas. Il faut vous orienter, comme nous orientons nous, vers un polytechnisme, c'est-à-dire que l'enfant doit aborder tout un tas de pistes, être capable de se débrouiller dans un nombre important de travaux, de façon que plus tard, il puisse avoir un certain choix, que lorsqu'il est entré dans un métier et puis ça ne lui plaît pas assez, peut-être se présente une autre chance, il prendra cette chance-là. Peut-être il fera pendant 10 ans un métier et puis un autre métier se présentera, où il réussira davantage, il le prendra encore. Dans la société actuelle, nous ne savons pas exactement ce que sera demain. Nous voyons les changements considérables qui sont intervenus dans le marché du travail depuis 2 ou 3 ans. Nous ne savons pas ce qui interviendra dans 2 ou 3 ans. Ce qu'il faut, c'est préparer les enfants à se débrouiller au mieux dans cette société tellement difficile, vous savez, tellement dure, qui sera celle à laquelle ils auront affaire. Il faut que nous les équipions pour qu'ils ne se contentent pas de subir la société qu'ils auront en face d'eux, mais qu'ils s'apprêtent avec leurs camarades à la dominer.